Je vous le déclare. Je vous le déclare, bientôt il fera justice.
Les vacances. Mais il n'y a pas de vacances pour la parole de Dieu. On a l'impression que quand Jésus prend la parole, quelqu'un vient lui dire, tu sais Jésus, je prie, je crie pour qu'il n'y ait plus la guerre, je prie pour ma maman qui est malade, pour telle autre personne, et Dieu n'entend pas. Est-ce qu'il est sourd? Est-ce que même il existe? Est-ce que je ne me suis pas trompé en croyant? Cette question, je pense qu'à un moment ou à un autre de notre vie, nous l'avons eue. Alors Jésus raconte cette parabole d'un juge qui n'est pas vraiment très juge, il est très juste. Il en a ras-le-bol que cette veuve lui casse les oreilles, alors il finit par lui donner raison. Et Jésus dit, si un juge injuste fait justice, combien plus Dieu qui est juste? C'est sans doute ça qu'il y a derrière. Quand on regarde la première lecture, là au moins la prière ça marche. Quand Moïse a les mains levées, Israël va à Amalek, pas de problème. Dès que les mains fatiguent, ça marche plus. Ça a l'air magique. Je vous rappelle que l'Ancien Testament n'est pas un récit de journaliste. C'est des gens qui, 1000 ans avant Jésus, essayent de dire ce qu'ils perçoivent de Dieu. Et ils perçoivent que quand on prie, Dieu nous donne la force. Après, ils le perçoivent dans leur mentalité à eux. Ils sont convaincus dans l'Ancien Testament que Dieu leur dit de faire la guerre à Amalek et qu'il va être avec eux. Dans certains passages, il leur dit « Tu les tues tous ». Est-ce que nous, aujourd'hui, connaissant Jésus, nous pouvons oser tuer d'autres au nom de Dieu? Faire la guerre au nom de Dieu? Non. Non. Jamais. Nous l'avons fait dans l'histoire. Mais je ne peux pas lire l'Ancien Testament en le coupant de son contexte et en oubliant que ce n'est pas Dieu qui écrit en direct l'Ancien Testament, mais en direct sur ce qui s'est passé. Dans la vie, nous faisons bien l'expérience que la prière n'est pas si magique que ça. Pourtant, ce qu'il y a de très fort, c'est cette insistance d'abord de Jésus à prier tout le temps. Ensuite, les gens de l'Ancien Testament qui nous disent, mais dur dans la prière, c'est ce qui te permettra de vaincre le mal, non pas Amalek et son armée, mais le mal. Le mal en toi d'abord. Dur dans la prière. Et si je veux comprendre la prière, il me faut contempler longtemps Jésus dans l'Évangile. Il n'échappe pas à la condition humaine, je vous l'ai dit plein de fois, mais je sais que je vais à contre-courant. Il y a un passage où Paul dit, les Juifs, ils veulent des miracles, les Grecs, ils veulent de la sagesse, et moi, je prie Jésus crucifié. Et je m'inscris dans la ligne de Paul. Je sais que ça n'attire pas les foules, mais c'est bien ça l'Évangile. Et je le rappelle, si vous contemplez Jésus, quand il est jeté, quand Marie et Joseph sont jetés sur les routes pour le recensement, il frappe aux portes de tous les hôtels, il n'y a pas de place pour eux, il n'y a pas de miracle. Il est comme tous les migrants qui sont jetés, humiliés partout dans le monde. Quand il a faim, même si là c'est un texte absolument symbolique, on ne transforme pas les pierres en pain. Quand il est sur la croix, ah, si t'es fils de Dieu, descends de la croix, fais un miracle, sauve-nous et nous avec. Et Jésus ne le fait pas. On croit à un Dieu qui s'est profondément fait homme. Si je contemple Jésus dans tout l'Évangile, la chose qui est la plus impressionnante, c'est qu'il est tout le temps en prière, tout le temps. Il y a des moments spécifiques où on entend que tout le matin, il se lève et il cherche. Il est en train de prier. On entend que toute la nuit, il est resté en prière avant de choisir ses apôtres. Il y a des moments spécifiques de prière comme ça. Il y a aussi la transfiguration, le baptême. Il est tellement uni à son Père en prière qu'on voit l'Esprit Saint sous forme d'une colombe ou à la transfiguration. Ses habits, sont resplendissants, ils reflètent totalement l'amour du Père, la gloire de Dieu. Et puis il y a cette voix du Père qu'on entend, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Donc il y a ces moments spécifiques de prière, mais toute sa vie, il est en prière. À plein de moments, on nous dit, Jésus leva les yeux, et il rend le pain, et il multiplie. Quand il est devant la femme adultère, qu'il est penché, je suppose qu'il prie. Et vraiment, l'enseignement des lectures de ce matin, c'est un appel à prier profondément, mais sans espérer quelque chose de magique. Il ne manque pas de gens pour vous dire, tu vas à tel endroit, tu fais telle formule de prière et ça va marcher. Vous savez bien, c'est pas comme ça. Ce matin, il y avait une dame que j'ai mariée il y a 3 semaines au moins, qui a un cancer avec métastase partout, et c'est ce qui lui a fait demander le mariage. Bien sûr, je prie pour un miracle, mais je prie plus fort que tout pour qu'elle ait l'Esprit Saint. Pour que le temps qui lui reste à vivre, elle puisse le vivre pleinement, pas seulement dans l'attente d'un miracle hypothétique, mais d'un miracle aujourd'hui. La paix aujourd'hui pour vivre chaque instant qu'elle a à vivre en pleine paix, en pleine communion avec son mari, avec son enfant, avec sa famille, avec les autres. À la fin de la messe, elle dit grand merci pour lui. Je crois que c'est ça la prière. Alors si on continue la prière à l'école de Jésus, vous avez goûté la lettre de Paul à Timothée. Bien, souvent, quand on pense prière, on pense d'abord à parler. Et Jésus dit, ne rabâchez pas comme les païens. Et je vous rappelle, la prière, la première chose, ce n'est pas parler. La première chose, c'est écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Et vraiment, c'est une grande joie pour moi de savoir le nombre d'entre vous qui avez maintenant pris l'habitude de lire les lectures de la messe tous les jours. Et tous ceux d'entre vous qui participaient à une maison d'évangile internet et qui tous les jours écrivaient une parole de vie, une lumière. Prier, c'est d'abord écouter, c'est contempler Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait pour l'aimer? Et pour que cette prière nous travaille, elle nous ramène. Elle fait qu'on se rend compte qu'on ne réagit plus complètement pareil. On a toujours nos péchés, rien à dire. Mais quand même, elle transforme notre cœur, notre regard. Et il y a vraiment cet appel à prier tout le temps. Et donc, à d'abord écouter. Paul nous dit, il parle à Timothée qui forme, qui est un apôtre qu'il a appelé, qui est un des premiers évêques. Et lui dit, depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures, elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Elles ont la parole de Dieu. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, l'Esprit Saint. La parole de Dieu, elle a le pouvoir de te communiquer l'amour. C'est une prière c'est une parole qui te rend acteur. Quand je prie pour des gens malades, j'ouvre aussi mon cœur à eux. Et ça m'aide à aller vers eux et à leur rendre visite et à les soutenir. Et ce qui me touche dans les lectures de ce matin, c'est le basculement de la question que fait Jésus. Au début, manifestement, des gens se demandent, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il est insensible? Et à la fin, la question de Jésus, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question qui me touche très profondément. Elle résonne toujours pour moi. C'est comme si Jésus dit, est-ce que, aujourd'hui, je peux trouver dans ton cœur la foi, l'amour, l'esprit de l'Évangile? Et est-ce que demain je le trouverai, quelles que soient les circonstances de la vie? Je vous ai parlé plusieurs fois de ces martyrs qui seront béatifiés le 14 décembre, parmi eux Camille Millet de Livry. Il y en a trois, il y en a quatre du diocèse, il y en a une vingtaine, je ne sais pas les autres noms. Et puis dans les compagnons de ces martyrs, Paul Béchet, qui était mon accompagnateur au terminal, qui lui a survécu. Dans les camps de concentration, quand il n'y a plus aucun espoir à vue humaine, ils continuent à prier. Quand ils ne peuvent plus rien, qu'il y en a un qui tombe, qui va partir pour la chambre à gaz, ils lui donnent la main. Hein, quel que soit, il n'y a pas d'espoir humain, mais il y a toujours l'amour en eux. Et Jésus peut trouver en eux la foi, l'amour, la communion avec lui. Hein, c'est vraiment la question qui nous est posée ce matin. Est-ce que je peux trouver dans ton cœur la foi, l'amour? L'amour pour Dieu, inséparable de l'amour pour les hommes. Le pape Léon vient de publier sa première exhortation apostolique. Vous avez vu, je vous en mets des morceaux dans chaque feuille. C'est super. Je ne vous la mettrai pas toute parce que c'est bon, mais on va continuer à la lire petit à petit. Je vous la mettrai complète pour ceux qui veulent la lire. Il nous rappelle le caractère central de l'attention aux pauvres pour une foi de chrétien. Il dit, ce n'est pas qu'une question de philanthropie, ce n'est pas une question de générosité simplement. Mais parce que le pauvre, c'est la présence même du Christ au milieu de nous. C'est le Christ lui-même. Chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ses plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il nous repose la question de la parabole du bon samaritain. À qui vas-tu t'identifier? Aux prêtres, aux spécialistes de la loi qui passent trop vite parce qu'ils ne veulent pas se rendre impurs et qu'ils ont peur? Ou à cet étranger, cet impur, cet infidèle, ce samaritain à qui on ne parle pas, qui lui s'arrête? Il nous invite à ne jamais être tranquille avec cette question. Il dit, c'est là que la communauté chrétienne trouve sa joie. Et quand je lis le livre des Actes des Apôtres de la paroisse Jean 23, je lis la même chose. À chaque fois que l'un ou l'autre est attentif à celui qui est sur le bord du chemin, qui est complètement mis à part de la société, ou sûr qu'il perd le sommeil, sûr qu'il a des moments d'inquiétude, mais quelle joie! Quelle joie pour lui, quelle joie pour la personne qui a accueilli. Quelle joie pour toute la communauté. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi, l'amour engagé dans ton cœur, dans ta vie?